ne naît pas femme, on le devient.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Fragrant, délit, d'évasion. Flagrant, défi, d'évolution. Podcast fringant. Épisode 1. Les vogues qui ne sont pas en vogue. Ma belle-sœur vient d'accoucher. Tout s'est bien passé. Elle va bien. Sa petite fille va bien. À la maternité, c'était simple. Elle a pu vivre sa grossesse et accoucher comme elle en avait besoin. Aller lui rendre visite, ça fait écho à d'autres témoignages, d'autres femmes aimées, pour qui ça ne s'est pas bien passé. Je m'interroge sur la place de la parturiente dans le système obstétrical. Je m'interroge sur la place de la vulve dans le système gynécologique. Je m'interroge sur la place de la femme dans le système médical au sein de notre société.
On m'a souvent dit qu'être mère, ça donnerait un sens à ma vie. J'ai toujours pensé le contraire, mais rares sont ceux de mon avis. Je n'ai ni l'instinct ni l'envie, on me répète que ça viendra, que mon destin sera accompli quand je tiendrai la vie dans mes bras. Je les vois déjà me crucifier, tous à me montrer du doigt. Pourquoi devrais-je me justifier? Au fond, ça ne concerne que moi. Pour quelques aspects biologiques, on nous divise dès la naissance. On me dit femme en toute logique, mais le suis-je vraiment par essence?
Violence obstétricale et gynécologique. Il ne s'agit pas de dénoncer les praticiennes, les praticiens, les personnels, tout un système entier, tout un corps médical, tout un fonctionnement. Il s'agit d'ouvrir les yeux, d'identifier, d'ouvrir les cœurs, de pouvoir transformer, en ayant conscience, des pratiques naturalisées, abjectes, des comportements inacceptables. Vogue, qu'est-ce que ça recouvre? Il y a plusieurs axes qui s'en mêlent les uns les autres, qui s'en mêlent les uns les autres, et qui créent un continuum. Continuum, un mot-clé. Continuum des violences. Continuum des violences obstétricales et gynécologiques. Premier axe, la non-prise en compte de la gêne de la patiente liée au caractère intime de la consultation. Deuxième axe, les propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, la volonté ou non d'avoir un enfant, renvoyant à des injonctions sexistes. Troisième axe, les interventions médicales exercées sans recueillir le consentement éclairé de la patiente. Quatrième axe, les actes ou refus d'actes non justifiés médicalement. Enfin, les violences sexuelles, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol, qui ne sont pas les seules violences, qui sont la fin extrême de ce continuum de violence qui commence simplement par le fait qu'une femme doit écarter les jambes. Quelle femme qui m'écoute aujourd'hui a écarté ses jambes lors de sa première séance de gynécologie en ne se posant aucune question? Les vogues, ça commence par là. Avec les chasses aux sorcières, féminicides de masse, l'on n'a pas seulement tué, on a retiré des savoirs ancestraux essentiels, pratiqués et pensés par des femmes, des savoirs botaniques, une puissance d'accoucher, une puissance d'avorter, une médecine de la vie, de la naissance, de la mort. On a construit les médecins, les penseurs universitaires. Vous me direz, c'est loin. Et pourtant, aujourd'hui, les femmes ont-elles pu se réapproprier leur ventre, leur vulve, leur grossesse, leur accouchement, leur avortement? Quelque chose est ambiant. La glorification de la femme mère s'exhibe avec la permanence des vogues, V-O-G. En avez-vous déjà entendu parler? Le tabou, le silence. toujours. Alors, je vais faire quelques vagues. Qu'elles envoient cette bouteille à la mer. D'aspiration à la libération, pour toutes et tous. Violence obstétricale et gynécologique. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, c'est partout, tout le temps? La non-prise en compte de la gêne de la patiente, liée au caractère intime de la consultation. Connaissez-vous l'examen à l'anglaise, qui permet de n'avoir pas à écarter les jambes, qui permet de pouvoir être allongé en chien de fusil, avec un linge qui recouvre l'intimité? Est-ce que le respect et la pudeur sont possibles? Souvent l'on dira à une femme qui réclame un examen à l'anglaise que la table n'est pas assez large, qu'il manque d'équipement. D'autres femmes se verront observées, en train de se déshabiller. Est-ce qu'il s'agit de penser d'abord à ce qui est pratique pour le médecin, ou est-ce qu'il s'agit de pouvoir accueillir la patiente et de trouver un juste milieu?
Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout. Notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Tabou, tabou.
Axe 2. Propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, la volonté ou non d'avoir un enfant, renvoyant à des injonctions sexistes. Certaines femmes se laissent entendre que leurs échographies ne sont pas réalisables comme il se doit à cause de leur graisse. Certaines femmes sont frappées par le slut-shaming, quand bien même elles aient pu subir des viols et des pratiques incestueuses. Vous avez déjà eu une relation sexuelle? Une femme qui veut avorter est considérée comme un monstre. Les droits liés à l'avortement ne sont pas acquis. Et aujourd'hui, ils sont mis en branle. Les femmes sont jugées si elles fument, si elles veulent faire ci ou ça, de la façon ci ou ça qui leur convient et qui ne correspond pas au code moral de la bonne jeune fille qui se plie, ou de la bonne jeune femme qui se plie, ou de la bonne femme qui se plie. Aux règles misogynes. Axe 3. Intervention médicale, exercée sans le recueillement du consentement éclairé de la patiente. Ne faut-il pas prévenir une femme qu'elle va être pénétrée par un spéculum, par un doigt ganté, si elle a la chance de ne pas rencontrer un gynécologue déviant, comme cela se fait trop, et beaucoup, et souvent, qui en profitera pour la pénétrer sans gants? Ne faut-il pas prévenir une femme? Savoir si elle est d'accord pour un toucher vaginal, pour une échographie endovaginale, pour une pénétration anale, pour un frottis, pour un palpé mammaire. Toutes ces pratiques, si elles ne sont pas annoncées, expliquées, si le consentement de la patiente n'est pas demandé, toutes ces pratiques sont du viol répété, normalisé. Chaque professionnel de santé a obligation de demander le consentement avant chaque geste ou chaque acte réalisé. Les choix ont à être pris en compte.
J'ai 20 ans. Je vais consulter un urologue sur ordonnance de mon nouveau médecin traitant suite à des infections urinaires violentes subies depuis 5 ans. Je me rends au rendez-vous à l'hôpital avec mon conjoint. L'urologue vient me chercher dans une salle d'attente. Mon conjoint me suit. On s'assoit sans recevoir de bonjour du spécialiste. Accueil glacial. Ça donne le ton tout de suite. Je lui explique la raison de ma venue. Il m'écoute d'une oreille distraite tandis que mon conjoint me tient la main. Il me dit ensuite qu'il va m'ausculter. Je le suis dans une petite pièce à l'arrière de son bureau, fermée par un rideau. C'est là que ça a vraiment mal tourné. Il me demande d'enlever mon pantalon et ma culotte tout en me regardant faire. Je suis donc évidemment très gênée. Soudainement, sans me prévenir, il enfonce ses doigts dans mon vagin, ce qui est évidemment très douloureux, et me dit « Je ne sens rien ». Sans même me regarder, je ne comprends pas ce qui se passe, ce qu'il cherche. Je ne savais même pas que j'allais avoir ce genre d'examen. Je suis déjà assez mal à l'aise, mais il poursuit en déplaçant ses doigts dans mon anus, sans avertissement ni explication. Les larmes montent, je suis complètement perdue au milieu d'un examen douloureux, pas prévu, sans mon consentement. Je sors de la pièce en regardant mon conjoint, les larmes aux yeux, et m'assois en attendant la suite de la consultation. Le médecin me demande si je suis fumeuse et si je prends la pilule. Je lui réponds que oui. Et là, sans détourner le regard de son ordinateur, il déclare « Je pense que vous avez une tumeur. J'ai eu mal toute la journée. Mon conjoint était écœuré de ce comportement et moi, je me sentais très sale. » Cette annonce de tumeur, sans autre explication, nous a, par ailleurs, glacé le sang à tous les deux. Dieu merci, je n'ai pas de tumeur. Je n'ai jamais eu à revoir cette personne et maintenant je me réfère seulement à mon médecin traitant quand il s'agit de mon intimité, ce qui n'est pas toujours évident, mais qui m'évite des examens gynécologiques non consentis.
Axe 4. Acte ou refus d'acte non justifié médicalement. Connaissez-vous le point du mari? L'on vous resserre après un accouchement pour que monsieur ait plus de plaisir lorsqu'il vous pénétrera, que des complications s'imposent ou non. L'épisiotomie est systématique, alors qu'elle n'a pas de sens médical à l'être. Qui plus est, il est effarant de découvrir que les taux d'épisiotomie, toutes grossesses confondues, sont très variables, d'une maternité à l'autre. Que dans une maternité de type 3, accueillant des grossesses pathologiques et à grand risque, l'on observe 0,3% d'épisiotomie, alors que dans les maternités de type 1, accueillant les grossesses normales ou à bas risque, l'on observe 45% d'épisiotomie, justifiée sur le fait que sinon, la grossesse pourrait être compliquée. Vous voyez bien le souci. Refuser une péridurale à une femme qui le demande. Imposer une péridurale à une femme qui ne le demande pas. Systématiser la césarienne pour que tout le monde gagne du temps dans le grand marché capitaliste de l'hôpital, qui doit être performant, qui doit faire du chiffre, où le personnel est stressé, malmené, se dépêche, fait comme il peut, quitte à perdre son humanité sans qu'on s'en rende compte. Une accusation de misandrie serait absurde et nous ferait oublier que les professionnels masculins ne sont pas les seuls à perpétuer et normaliser les violences obstétricales et gynécologiques. Les femmes médecins doivent prouver leur valeur, qu'elles sont valables comme un homme et reproduisent également des pratiques sociales dont les sous-jacements appartiennent à la culture du viol ancestrale, toujours neuve, à la domination patriarcale et masculine. Femmes et hommes véhiculent, transmettent cette culture du viol cette domination patriarcale et masculine. Femmes et hommes sont sous le joug nécessaire d'une déconstruction sans laquelle notre société est divisée, bête et méchante. Il nous faudrait pouvoir aussi sortir de la binarité obligatoire et questionner qu'est-ce qu'être homme et qu'est-ce qu'être femme. Mais nous verrons cela dans un autre épisode.
Bonjour, je suis Stéphanie. Je suis la maman de Rita, 5 ans et demi, et je vais essayer de vous faire le récit de mon accouchement qui ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. J'ai été accompagnée par deux super sages-femmes sur toute la prépa à l'accouchement. Elles m'ont vraiment guidée, blindée pour préparer mon projet de naissance naturel. Donc merci Sophie et Bérangère. Ça m'a permis de préparer un projet de naissance écrit, imagé. Enfin voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Malheureusement, je pense que l'équipe qui était présente le soir de mon accouchement, enfin la nuit de mon accouchement, ne l'a pas vraiment consultée. Alors j'ai perdu les os un lundi soir, le vrai travail a commencé le mardi vers 20h. À 23h, j'avais le col ouvert à 3 et j'étais en chambre en maternité. Je voulais descendre en salle de naissance physiologique pour avoir un peu les outils pour m'aider à me positionner mieux. Voilà, j'y arrivais plus. Dans l'ascenseur qui me descend, le personnel soignant qui m'accompagne me dit que la sage-femme en bas ne comprend pas pourquoi je ne vais pas me coucher pour faire une bonne nuit, que je serai fraîche et dispo pour accoucher le lendemain. Elle me dit « Oh, elle n'a jamais dû accoucher celle-ci ». Donc déjà, le cadre est posé. J'arrive dans une salle de naissance qui est gelée. Donc en fait, de 23h à 3h du matin, je suis congelée. En fait, je suis complètement contractée. Je n'arrive pas à me détendre. Et en plus de ça, la sage-femme est hyper tendue parce que le monitoring sans fil ne fonctionne pas. Donc tous les 5 minutes, elle vient, elle le remet. Et en fait, l'agacement est croissant jusqu'à ce qu'elle me dise à un moment donné d'attendre parce que je suis en pleine contraction, j'arrive pas à bouger. Et elle s'énerve sur moi parce que elle s'intéresse à mon bébé, elle s'inquiète pour mon bébé, alors qu'en fait, il n'y a aucun problème de battement de cœur depuis le début. Mais soit, elle me propose plusieurs fois avec insistance la péridurale, et donc évidemment, je me sens perdue, je ne suis pas du tout aidée, accompagnée, j'ai aucun conseil, personne ne me dit c'est bien, c'est pas bien, donc je finis par céder. Et là, on me dit que vraiment, l'anesthésiste va être ravie que je le réveille à 4h du mat. Pour info, d'ailleurs, cette péridurale me sera posée alors que mon col est quasiment à 8. Et à ce moment-là, on va me donner la main, on va m'encourager, on va m'aider à respirer. Donc le comble, c'est que voilà, finalement, c'est quand je cède en fait aux règles de la maternité que j'obtiens un petit peu d'aide et de considération. Mon bébé naît en bonne santé, il n'y a pas de souci, mais je demande quand même un entretien avec la responsable de la maternité pour expliquer tout ça et leur expliquer que je comprends pas pourquoi on m'a accompagnée dans ce projet de naissance naturelle pour, au moment de l'accouchement, me laisser complètement tomber. Et elle va me répondre « Bah, on comprend, madame, en fait, que vous auriez voulu qu'on soit plus centré vers vous, mais nous, ce qui nous importe, c'est votre bébé. » Donc là, on me renvoie la culpabilité de penser qu'à moi, alors qu'en fait, une maman qui va bien, c'est aussi un bébé qui va bien, puis les deux, en fait, ne s'opposent pas. Donc ça m'a laissé vraiment, pendant longtemps, un goût amer.
Qui fait partie de mon réseau? Qu'est-ce qui nous lie précisément? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Qui guide le lombric sous la terre et rend les fourmis aussi têtues et obstinées? Quand le vent et la pluie érodent le sol, qui pousse la racine à résister? Et quelle main invisible a inscrit son message codé dans la graine? Qui dirige la toile d'araignée et organise la stratégie de la mauvaise herbe? Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne, la révolte de l'herbe contre le ciment, la rébellion du pissenlit? Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées? Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance? Qui mène la révolution de la terre? Qui fait partie de mon réseau? Qu'est-ce qui nous lie précisément? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses, ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal, décréter une frontière pour enfermer la mer, demander à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer.
Axe 5. Violence sexuelle, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. Le bout du continuum, ce que l'on commence officiellement à proscrire. Ces violences continues continueront tant qu'on ne cherche qu'à proscrire le bout du continuum des violences. C'est tout le spectre qui est à désincruster, nettoyer, purifier, modifier. Cet axe nous ramène à une nécessité L'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Il y a des viols qui ne font pas de bruit, qui sont faits sans cette violence dont on parle, sans cette contrainte, sans cette menace ou sans cette surprise. Cette définition fait fi des emprises, des manipulations, des violences sourdes, des violences symboliques. Cette définition distingue l'attouchement sexuel du viol, distingue ce qui serait crime, ce qui n'en serait pas. Ne faudrait-il pas que toute situation sexuelle non consentie soit considérée comme viol ? Ne faudrait-il pas, enfin, redéfinir juridiquement le viol comme tout acte sexuel ne reposant pas sur le consentement explicite, de sorte à ce que la honte, la peur changent de camp, que les victimes n'aient pas à justifier qu'elles le sont ? Comment se protéger ? Comment réagir ? Comment se défendre ? Comment se souvenir que j'ai le droit de me défendre ? Comment me souvenir que je n'ai rien fait de mal ? Que je ne suis ni coupable, ni sale, ni honteuse, ni celle qui casse l'ambiance ? Comment me protéger ? Comment nous protéger ? Comment faire en sorte que tout ceci prenne fin ? Est-ce que nous pourrons espérer des réactions, des prises d'action, de décisions officielles ? Public. Faut-il se faire justice soi-même ? Comme cette femme qui se saisit tout à coup du matériel obstétrical et qui se fait sa propre échographie et qui montre que le médecin se trompe et qu'il ne veut pas le savoir. Y a-t-il une justice pour les femmes ? Y a-t-il une justice contre les violences obstétricales et gynécologiques ? Contre l'autorité systématique ? Contre la soumission qui entremêle des systèmes de rapport de force et de pouvoir ? Où la femme est enfoncée ? Où la femme on lui enfonce des choses sans son consentement.
Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire. T'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Pour celle qui avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celle qui prenne la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
C'était un podcast fringant, peut-être un peu grinçant. C'était l'épisode 1. Fragrant délit d'évasion. Flagrant défi d'évolution.